Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu en Irak après avoir effectué une visite au Qatar. Le bilan de l'énorme incendie qui s'est déclenché dans un hôpital à Bagdad est passé à 82 morts et quelques 110 blessés et un dimanche sous haute tension à Mogadiscio, capitale de la Somalie. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, est arrivé lundi 26 avril en Irak après avoir effectué une visite au Qatar. Lors de sa visite de deux jours en Irak, le ministre iranien des Affaires étrangères rencontrera son homologue irakien et d'autres responsables de ce pays frère et ami. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a rencontré dimanche 25 avril son homologue qatari, Mohammad Al-Sani. Les deux hommes ont discuté des questions d'intérêt commun, des relations bilatérales et d'importantes évolutions régionales et internationales. Le principal négociateur iranien dans les pourparlers organisés à Vienne en vue de relancer l'accord sur le nucléaire iranien a déclaré dimanche que son pays refuserait de participer à des négociations d'attrition, a rapporté l'agence de presse officielle iranienne IRNA. La durée exacte des pourparlers ne peut pas être prévue à l'avance. Nous ne permettons pas que les négociations se transforment en pourparlers d'attrition. Si nous estimons que les autres parties ne sont pas sérieuses ou essaient juste de gagner du temps ou d'introduire de nouvelles questions dans les discussions, nous abandonnerons les négociations, a indiqué M. Abbas Al-Archi, qui dirige l'équipe de négociation iranienne dans les pourparlers en cours à Vienne avec les représentants du Royaume-Uni, de la Chine, de la France, de la Russie et de l'Allemagne. En même temps, nous ne sommes pas pressés car les négociations touchent à des problèmes graves qui doivent être examinés et discutés, a-t-il déclaré. M. Al-Archi, qui est également vice-ministre des Affaires étrangères d'Iran, a tenu ses propos après une réunion avec la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien. Le haut diplomate iranien a de nouveau rejeté le plan étape par étape abandonné depuis longtemps qui visait à relancer l'accord sur le nucléaire. Il a en outre sommé les États-Unis de lever les sanctions qui visent environ 1500 personnalités iraniennes et ce dans le cadre des efforts visant à relancer l'accord nucléaire de 2015. Le bilan de l'énorme incendie qui s'est déclenché dans un hôpital accueillant des patients atteints du coronavirus à Bagdad est passé à 82 morts et quelques 110 blessés, a annoncé dimanche le ministère irakien de l'Intérieur. L'incendie de l'hôpital Ibn al-Khatib a entraîné la mort de 82 patients et agents de santé et en a blessé 110 autres, a déclaré le porte-parole du ministère Khalid al-Mahana sur la chaîne d'information officielle irakienne Irakia. De nombreux blessés se trouvent toujours dans un état critique, a indiqué M. Al-Mahana. L'incident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche, lorsque plusieurs bouteilles d'oxygène ont explosé, mettant le feu à l'hôpital Ibn al-Khatib. Cet établissement situé dans l'est de la capitale irakienne est dédié au traitement des patients atteints de la COVID-19. Des équipes de la protection civile et des véhicules de pompiers étaient arrivés sur les lieux pour éteindre l'incendie. Ils ont réussi à empêcher les flammes d'atteindre les étages supérieurs, indique le communiqué du ministère de l'Intérieur. Ils ont également sauvé quelques 90 patients et agents de santé qui étaient encerclés par les flammes dans le bâtiment, selon la même source. De nombreux patients ont été affectés par la coupure d'alimentation en oxygène durant leur évacuation de l'hôpital et plusieurs autres ont été étouffés par la fumée, ajoute le communiqué. Au bout de trois jours d'affrontements avec les forces d'occupation israéliennes, les habitants de la ville Al-Rotz ont finalement eu gain de cause. Dans la ville sainte Al-Rotz, l'occupation israélienne a enlevé les barrages de fer qu'elle avait installés depuis le début du mois de Ramadan à Bab al-Amoud, une ruelle de la vieille ville qui mène directement vers la mosquée d'Al-Aqsa. Cette décision, qui est entrée en vigueur dans la soirée de ce dimanche 25 avril, a été fêtée par les habitants d'Al-Rotz. C'est elle, Al-Rotz est arabe, ont-ils scandé. Les images parvenues de l'enceinte de l'esplanade des mosquées montrent les jeunes Palestiniens en train de lever ces barrages. Les habitants d'Al-Rotz s'insurgent depuis le début du mois de Ramadan contre les mesures israéliennes destinées à les empêcher de se rendre à l'esplanade des mosquées pour y effectuer la prière à différents moments de la journée de ce mois béni. les barrages en faisaient partie. En même temps, ils sont victimes de toutes sortes d'exactions, lesquelles s'étaient intensifiées ces derniers mois pour les expulser de leur quartier situé dans la partie est de la ville sainte, en préparation à sa totale judaïsation. Les choses ont pris une tournure plus violente lorsque, dans la nuit de jeudi à vendredi, des colons extrémistes avaient manifesté devant Bab al-Hamoud en escandant à mort les Arabes. Les Palestiniens ont alors défilé dans une manifestation de protestation à Rotsest, où la police israélienne a tiré sur eux des balles en caoutchouc et les a aspergées d'eau usée et de gaz lacrymogène. Même scène à l'aube du vendredi 23 avril lorsque des colons ont attaqué le quartier Sheikh Jarrah. À coups de pierre, les jeunes Palestiniens sont sortis pour les repousser et défendre leur quartier. Et des accrochages se sont produits avec les policiers et les militaires israéliens qui sont directement intervenus pour soutenir les colons. Il y a eu plus de 120 blessés dans la journée. Le dimanche, le mouvement Hamas a appelé les habitants d'Al-Rots à former un commandement unifié, à se mobiliser dans la vieille ville d'Al-Rots et sur ses portes et à veiller à faire la prière dans la mosquée d'Al-Aqsa. Il a aussi appelé les factions de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza à préparer leurs requêtes pour venir en aide aux Palestiniens de la ville sainte Al-Rots. Nos gens dans les villes de la Cisjordanie et de l'intérieur palestinien doivent se rendre vers la mosquée sainte Al-Aqsa, a-t-il appelé, mettant en garde contre les troupeaux de colons qui s'infiltrent dans les villages et les camps lointains. Il faut former des comités de surveillance de nuit dans toutes les régions palestiniennes, a insisté le texte du Hamas. La Syrie accuse les forces turques et leurs mercenaires de perpétrer des actes criminels contre les civils syriens. Les zones concernées du gouvernorat de Hasakeh sont restées sans eau courante pendant plus de 16 jours consécutifs en dépit d'une situation sanitaire critique. La région connaît une température élevée au mois de Ramadan, ce qui a aggravé la souffrance des habitants de la ville de Hasakeh et ses environs. Les militaires turcs, qui occupent de vastes pans de territoire dans le nord de la Syrie, ont coupé l'eau potable aux habitants de la ville de Hasakeh et de ses environs, a annoncé le ministère syrien des Affaires étrangères. Selon Damas, des bombardements et des pilonnages entrepris par l'armée turque ont mis hors service la station d'eau potable à Alouk, qui approvisionne Hasakeh à 23 reprises depuis octobre 2019. La partie syrienne appelle ainsi le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Commission internationale du Croissant-Rouge à faire pression sur les autorités de l'occupation turque pour arrêter ces pratiques criminelles contre les Syriens innocents. Un dimanche sous haute tension à Mogadiscio, capitale de la Somalie. Les forces spéciales de l'armée fédérale, fidèles au président Farmajo, ont affronté des soldats mutinés, déterminés à s'opposer à la prolongation de son mandat. C'est cette prolongation de 2 ans jugée illégale par l'opposition qui est au cœur de la grave crise politique que traverse le pays depuis le mois de février, date à laquelle le mandat officiel du président a expiré sans la tenue d'un scrutin présidentiel. Tard dimanche soir, la situation était encore confuse. Aucun bilan n'est encore disponible sur d'éventuelles victimes. Des coups de feu ont claqué jusque tard dans la nuit à plusieurs grands carrefours de Mogadiscio. Les plus violents combats ont eu lieu en fin d'après-midi, sitôt la nuit tombée sur la capitale. Des tirs d'armes légères et de mortiers, des tirs de RPG également, ont été signalés par des habitants de plusieurs quartiers. Tout avait commencé le matin avec des manifestations de militants de l'opposition exigeant le départ du président Farmajo en présence de soldats mutinés issus d'une ancienne milice désormais versée dans l'armée régulière et arrivée des alentours dans la nuit. Le ministère algérien de la Défense a annoncé le dimanche 25 avril le démantèlement d'une cellule de militants séparatistes du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie MAK qui projetait des attentats contre les marches du mouvement de protestation Irak. Cette cellule criminelle, démantelée le mois dernier, est composée de partisans du mouvement séparatiste MAK, organisation interdite en Algérie, selon le ministère de la Défense nationale. Ses membres sont impliqués dans la planification d'attentats et d'actes criminels lors des marches et des rassemblements populaires dans plusieurs régions du pays, a-t-il précisé dans un communiqué. Des armes de guerre et des explosifs ont été saisis lors de cette opération menée fin mars par les services de sécurité, ajoute le communiqué qui a fait état d'une dangereuse conspiration ciblant le pays fomentée par le MAC. Le 30 mars, le parquet d'Azazgah avait annoncé l'arrestation de 5 personnes soupçonnées de projeter des actions terroristes à Tizi Ouzou et à Béjaïa, en Kabylie, lors des manifestations hebdomadaires de l'Irak. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Après la Syrie, le partenariat militaire irano-russe s'étend à l'Ukraine. Ce n'est pas uniquement en Syrie qu'Iraniens et Russes offrent à démystifier les armements US, à détromper le monde entier pour qu'ils ne dépensent pas autant d'argent à remplir les poches de Lockheed Martin sur le dos de leur nation. Après avoir mis en miettes les batteries de missiles Patriot golfiens au Yémen à travers des centaines d'attaques aux drones et aux missiles balistiques tactiques dans l'est, l'ouest et le sud du Yémen, la résistance a mis le cap sur Israël. En effet, la totale cécité des radars AN/MPQ-53 des Patriot PAC-3 saoudiens avait été à plusieurs reprises mise sur le compte des conseillers militaires US qui avaient l'ordre de ne pas les activer parce que les États-Unis chercheraient en coulisses à affaiblir le secteur pétrolier saoudien dans la mesure où ils sont eux-mêmes un producteur du pétrole et que le fait de compter dans le camp un autre producteur de taille de l'Arabie saoudite ne va pas forcément dans leurs intérêts. Cette lecture, pour le moins pas inintelligente, tendait à s'étayer d'un autre exemple, celui de l'Irak, un autre producteur pétrolier dont le secteur énergétique est depuis 2003 sous la férule des Américains qui en tirent les revenus et les versent sur des comptes bancaires aux États-Unis, quitte à empêcher l'État irakien d'en disposer. Mais que dire des patriotes israéliens ? Y aurait-il une certaine complicité tacite entre l'État syrien et les États-Unis quand l'armée syrienne a tiré son premier missile tactique le 21 avril contre Dimona, missile qui a percé pas moins de 12 sites de Dessa pour s'abattre en sol à proximité d'une batterie de PAC-3 américaine en alerte ? La réponse est évidemment négative. En effet, la technologie d'armement US-Israël bat de l'aile depuis que les Américains et leurs alliés ont malhabilement choisi la confrontation avec l'axe de la résistance et leurs déboires ont très exactement commencé un certain juin 2019 quand une batterie de missiles antimissiles Khorda 3 a magistralement abattu un drone Global Hawk RQ-4 aussitôt après qu'il ait franchi l'espace aérien du sud de l'Iran. Or, les Iraniens n'ont pas tardé à mettre main sur l'épave et à procéder à une rapide et profonde rétro-ingénierie, à la fois pour booster leur secteur de drones, mais aussi pour en profiter leurs partenaires. La Russie en est un. S'il est vrai qu'en Syrie, les avions russes, tout comme les S-300 et les S-400, ont tout fait pour que la Syrie conserve et reconstitue son arsenal balistique, dont une simple pièce, un missile Fateh 110, a suffi pour mettre sans dessous dessous Israël après s'être abattu à 30 km de Dimona, il est aussi vrai que la résistance n'a jamais cessé de rendre la monnaie de la pièce russe. Aussi en Crimée, une toute dernière information fait état de l'interception réussie d'un RQ-4 US en pleine mission de reconnaissance. Selon les données présentées, le drone a perdu de manière inattendue le contact avec les satellites et en fait est resté incontrôlé, ce qui a déclenché un retour d'urgence sur son itinéraire précédent. Le drone ayant fait un virage serré, en voyant le signal, 7600 pertes de communication avant cela. Apparemment, certains spécialistes ont aidé les opérateurs de l'US Air Force à réaliser leur erreur. Il semblerait que les données fournies par les partenaires iraniens de la Russie y étaient pour beaucoup. Une chose est sûre, le partenariat militaire Iran-Russie n'a rien des alliances militaires adversaires basées sur trop de mouvements de capitaux sans être réellement bonnes au moment de combat. Et si la Russie a installé des batteries de Khorda 3 sur ses frontières avec l'Ukraine,